Bonsoir à tous, c'est Livre au Café des Psaumes, Livre au Café des Psaumes où je reçois cette semaine Gérald Tenenbaum, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes mathématicien, en fait vous êtes professeur à l'université de Nancy, vous avez écrit une dizaine de romans aujourd'hui, je pense au Reflet des jours mauves, à l'Affinité des traces, au Souffle couplé, à l'Ordre des jours, aux harmoniques, et puis beaucoup de ces livres étaient publiés chez Eloïse d'Ormesson, et puis Peau vive, que vous aviez publié aux éditions de La Grande Ourse. Et puis, il y a assez longtemps, on y reviendra peut-être tout à l'heure, aux éditions du Bord de l'eau, Rendez-vous au bord du nombre. Et le livre qui vient de paraître, et qui est vraiment un beau livre, s'appelle L'affaire Pavelstein, que vous avez publié aux éditions Cohen et Cohen. Alors, je vais commencer par l'épigraphe de ce livre,
oui,
qui est une épigraphe d'André Breton, qui ouvre le roman sur une énigme. En matière de révolte, aucun de nous ne doit avoir besoin d'ancêtres. Alors, comme vous avez deux personnages,
oui,
on se pose la question et on se dit, est-ce qu'ils sont finalement tous les deux très révoltés? En fait, ce livre est écrit sous le signe de la révolte. Sans doute le personnage homme, qui est un cinéaste, on va y revenir, mais un cinéaste très important, qui a joué un très grand rôle, au fond, pour filmer l'absence et penser l'absence.
Absolument.
Et puis la petite journaliste qui va venir l'interroger et qui est très maligne et très astucieuse, dans la peau de qui vous vous glissez.
Mm-hmm.
L'un et l'autre sont vraiment deux révoltés?
Oui, ils sont deux révoltés de manière différente. Chez Paula Goldman, donc la journaliste, il y a une révolte épidermique contre la bien-pensance, contre le manque de compréhension de certaines notions importantes comme la banalité du mal. Chez Pavelstein, c'est une révolte, je dirais une révolte artistique qui l'amène à cultiver le paradoxe, qui l'amène à chercher le sens là où il n'y en a pas. Et puis il y a d'autres personnages également qui sont également révoltés de manière différente dans le livre. Et puis on évoque aussi les révoltes qui sont retenues dans l'histoire juive, comme Massada et Varsovie, et qui sont paradoxalement les deux seules révoltes qui ont été retenues dans toute l'histoire. Et on se pose d'ailleurs la question de pourquoi ces deux-là et pourquoi ces deux-là seulement. Et puis il y a bien sûr, à un moment donné, bon, il y a un voyage au Tibet, et il y a la révolte passive des moines tibétains dans la Thébaïde.
Gérald Tenenbaum, petite prouesse. C'est une femme qui écrit. Et vous vous êtes glissé dans la peau d'une femme. Une femme parle, et la première phrase est assez choc. « Je déteste porter des collants lorsque j'ai mes règles. » Faut être gonflé pour écrire ça quand on est un homme. Et d'emblée, on peut dire que le narrateur-auteur est invité à disparaître en tant qu'homme. Paula, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, se lance donc dans un récit. Et c'est ce récit que vous allez nous faire. Récit rétrospectif, personnel, et la scène de l'écriture qui ouvre et qui clôt le récit, intervient quelques 20 ans après la scène de l'histoire.
Oui,
mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le prodige de se couler comme ça dans la peau d'une femme.
Alors, c'est vrai que, bon, écrire... Georges Samprin avait écrit « L'écriture ou la vie », parce qu'il s'était mis en demeure de choisir entre raconter son expérience concentrationnaire ou vivre sa propre vie. On m'a fait remarquer que dans mon cas, l'écriture est la vie. Et c'est vrai que à partir du moment où, l'écriture permet de l'exercice de la liberté, et c'est peut-être une des plus grandes libertés que d'être dans l'écriture, ce qu'on ne pourra jamais être dans la vraie vie. Alors c'est vrai que ce travail d'écrire au féminin n'a pas été un travail facile. Ça m'a demandé une sorte d'épluchage, strate après strate, d'aller trouver ma part de féminité. Ça a duré plusieurs semaines avant que je puisse commencer même à écrire. Enfin, j'ai écrit cette première phrase, ensuite je me suis arrêté, j'ai réfléchi, est-ce que je continuais sur le même registre est-ce que je changeais mon fusil d'épaule, si j'ose dire. Et puis, j'ai trouvé cette part de féminité et ça s'est plutôt bien passé.
J'ai été frappé par les habits. C'est-à-dire, très souvent, vous citez les vêtements que Paula met.
Oui.
Vous avez l'impression que chez une femme, c'est tellement important.
Alors, ça peut être vu comme un signe de futilité, mais dans
non,
le...
Non, pas de futilité, forcément, non.
Alors, de séduction, mais dans le cas de Paula, c'est plutôt, je dirais, un souci d'élégance et de cohérence. Elle n'est pas particulièrement séductrice, mais pour elle, les habits et puis le fait de s'adapter aux circonstances sont très importants. Donc, ces habits, cette seconde peau que sont les habits sont pour elle une manière d'affirmer sa propre identité.
Alors un mot sur Pavel Stein lui-même. C'est donc un homme d'âge mûr, à la célébrité bien établie. Pavel Stein est une sorte de phénomène. Je dirais que c'est presque un paradoxe fait homme.
Tout à fait.
Parce qu'il est mi-cinéaste, mi-écrivain. Il est dramaturge, il est communicant. Bon, c'est impossible de ne pas penser à Claude Lanzmann. Mais ce n'est pas du tout Claude Lanzmann. Mais c'est impossible de ne pas y penser.
Tout à fait.
Parce que c'est une figure presque de démiurge en négatif. Si vous voulez, pour ceux qui ont vu au théâtre de l'Atelier Samy Fray dire là, en ce moment un texte de Lanzmann et qui ont réfléchi sur ce qu'était l'individu Lanzmann et son œuvre gigantesque, quand on voit Pavel Stein, on se dit qu'il a quelque chose, incontestablement. En même temps, il veut provoquer, visiblement. Il est à la fois la bonne conscience de son époque et en même temps la mauvaise conscience de son époque.
Oui, c'est vrai. Oui. Il est la bonne mauvaise conscience, on peut
dire.
Alors
tout son travail porte sur le vide, sur le néant.
Oui,
expliquez-moi
oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, tout son travail porte sur le vide et le néant.
Alors,
parce que je ne fais que plagier ce qu'il y a dans votre livre.
Eh bien le vide, en fait, c'est l'absence. Et c'est vrai que ce que nous a laissé le génocide, c'est une énorme part d'absence dans la mémoire collective. Donc le travail de Stein, c'est évidemment une révolte par rapport à cette absence, par rapport au génocide, et c'est une tentative désespérée d'y trouver du sens. Alors c'est vrai que après l'écriture de ce livre, j'ai eu la connaissance du travail de Viktor Frankl, qui était un psychiatre qui a été déporté et qui a écrit un livre La quête humaine de sens dans les années juste après la guerre, dans les années 46, et qui a eu un énorme retentissement en particulier aux États-Unis, pas tellement en France, mais son livre s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires, c'était la problématique qu'il a envisagée, c'était justement trouver du sens dans l'expérience humaine. Il disait vivre, c'est souffrir, survivre, et il savait de quoi il parlait en termes de survivre, c'est trouver un sens à sa souffrance. Alors Pavel Stein est un révolté qui cultive le paradoxe pour trouver du sens dans l'absence dans laquelle on baigne. Voilà.
Mais lui-même, on peut dire que sa vie est une énigme, parce que on comprend pas ce qui le meut. D'une certaine façon, bien sûr, le traitement de la Shoah, le traitement du vide, comme vous dites, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui pour qu'il parte au Tibet franchement, moi, ça m'a surpris, son départ au Tibet.
Oui, alors bien sûr, ça l'a surpris. Ça peut surprendre, mais alors c'est un quelqu'un qui a besoin de réflexion, qui a besoin de spiritualité et qui a besoin, comme souvent dans la culture juive, qui a besoin de décentrement. Donc le Tibet, c'est déjà d'aller dans une autre culture qui a des liens avec la culture juive. Et ce travail de décentrement peut nourrir sa spiritualité. Il y a aussi l'expérience tibétaine, il y a aussi la résonance, parce que le Tibet, c'est comme le pays ouïghour, sont des zones du monde dans lesquelles il y a une répression et une tentative d'effacement d'une culture. Évidemment, ça ne peut pas être être sans raisonner pour Stein et pour nous. Et puis, bien sûr, il y a la révolte, et la révolte de Stein. Il a pris la révolte d'une manière paradoxale. C'est-à-dire, enfin, au fond, pour lui, cultiver le paradoxe, c'est exprimer sa révolte. Et la révolte telle qu'elle est exprimée chez les moines tibétains est également une révolte paradoxale, puisque c'est une révolte passive.
Alors, vous, Paula, oui. Vous êtes agacé au moment de la projection des 120 jours de Sodome,
oui.
Par ce réalisateur, parce qu'au fond, son comportement conduit à ce que Paula l'agresse verbalement,
oui.
Avec une question un peu provocatrice. Et on peut dire qu'elle est énervée par la manière dont le cinéaste lui répond. Oui. On serait à moins, hein.
Oui.
Je trouve qu'elle a raison. Et elle va quitter les lieux, et puis elle ne va pas le ménager. Hein. Elle pense pique-pendre. Et puis, quelques mois plus tard, elle va reprendre contact pour une interview, et de façon très inattendue, une relation amoureuse va naître entre eux. Alors qu'il y a une différence de génération.
Oui.
Et puis, au fond, une très grande différence de formation, d'histoire. Et en fait, lorsque Pavel part au Tibet dans ce monastère, pour ce que Paula imagine être une retraite temporaire, d'une certaine façon un séjour pour se ressourcer,
oui.
Elle va le rejoindre à son invitation, elle va tout de suite accepter son invitation.
Oui, parce que son invitation vient sous la forme d'un impératif. Leur relation a déjà commencé, hein, donc c'est pas juste le début. Je dirais, ils ont entamé cette relation amoureuse depuis quelques mois, enfin en tout cas quelques semaines, et il lui écrit et lui dit voilà, Paula, viens avec un billet d'avion. Donc là, c'est vraiment c'est une injonction catégorique et elle ne peut pas résister. Je dirais là à la fois la curiosité et puis en même temps une certaine inquiétude. Je veux dire, quand on reçoit un mot comme ça, elle obtempère. Voilà.
Très curieusement, la relation entre les deux amoureux tourne autour du problème du vide et de l'absence.
Oui.
C'est-à-dire que cette question du vide, de l'absence, les préoccupe tous les deux. Et c'est au fond un point commun qu'ils ont.
Tout à fait. Oui, c'est c'est vrai que Stein vit cette absence dans son travail artistique. Pour Paula, elle le vit dans sa chair. Il y a un personnage qui est très important, qui parcourt le livre, qui est la mère de Paula, qui est absente depuis le début, depuis la première phrase. On sait qu'elle est décédée, Paula continue la conversation avec sa mère pendant tout au long du livre. C'est vrai qu'entre l'absence et la mémoire, il y a un rapport très étroit, et ce rapport, il est concrétisé par le livre. Le livre, c'est ce qui permet de rappeler à tout moment ce qui est absent. Et Paula réfléchit constamment sur l'absence. Elle réfléchit par exemple sur l'absence de commémoration des événements, par exemple de la révolte du ghetto de Varsovie. Et puis Stein, lui, il concrétise l'absence. Par exemple, il envoie des lettres, enfin, il écrit des lettres qu'il n'envoie pas. Donc, ces lettres sont une sorte de concrétisation de l'absence.
Et en même temps, de témoignage.
Et de témoignage. Et il finit par incarner l'absence lui-même.
Oui, alors en même temps, il assiste à l'arrivée de l'armée chinoise au Tibet. Et. C'est assez curieux parce qu'il pourrait faire la comparaison avec la Shoah.
Oui.
Et en fait, il ne peut pas prononcer ce mot. Alors donc, on est exactement à l'inverse de Lanzmann, puisque Lanzmann, il se rengorgeait d'avoir été à l'origine de ce mot, ce qui n'est pas faux, et dans la langue française.
Oui.
Et lui, votre héros, c'est plutôt l'inverse, il ne veut pas de ce mot.
Oui, c'est ça. Lanzmann disait « La Shoah, c'est Hitler, Shoah, c'est moi ». Et c'est vrai que Stein n'aime pas ce mot, il préfère le mot de génocide. On peut discuter sur l'emploi du mot Shoah, qui est un mot religieux, donc, et que Stein refuse. Cela dit, il a une véritable, une véritable tentation, et plus qu'une tentation, il décide, au moment où il apprend qu'il est malade et qu'il souffre, il veut s'incarner dans la révolte et il veut participer à cette révolte paradoxale des moines tibétains.
En fait, ce livre tourne autour de la mémoire, une fois de plus, mais un mémoire qui s'affirme difficilement, qui est, je dirais, presque une mémoire de tremblée. Et c'est très souvent dans votre œuvre, il y a cet aspect de mémoire tremblée. C'est-à-dire un peu comme si la mémoire nous trompait. Et j'ai l'impression qu'elle nous trompait, nous disait des choses exactes, mais en même temps dont on n'est pas tout à fait sûr.
Oui, c'est vrai qu'il emploie d'ailleurs le mot de tremblement. Il dit la mémoire, c'est comme un aller-retour entre ce qu'on a vécu et ce qu'on aurait pu vivre, entre ce qui a été et ce qui aurait pu être. Et donc, cette mémoire, le peuple juif a des rapports très particuliers, très paradoxaux également, avec la mémoire. Donc, c'est... vivre la mémoire, c'est aussi prendre en charge le vide, c'est aussi faire acte de transmission.
Il y a quelque chose de très abouti dans votre roman qui m'a beaucoup touché, qui est au fond l'exaltation de la vie. C'est-à-dire que c'est un thème juif absolument fondamental. Pour nous, la vie, au fond, résiste à la mort. Pavel disparaît. Mais on ne sait pas très bien comment, d'ailleurs, où, bon, mais on imagine.
On imagine, mais la fin est ouverte. Ouais,
voilà, oui. Mais il reste les choses, il reste ce qu'il écrit, il reste la trace de ce qu'il a envoyé,
oui.
Il reste la trace de ce qu'il a transmis, et au fond, la vie est comme un souffle d'espoir. On a l'impression que le souffle d'espoir est tout le temps présent.
C'est vrai, il y a le chai, donc les deux lettres hébreux qui disent la vie que Paula porte sur elle.
Autour du cou.
Il y a la valeur numérique du mot chai qui est 18 en hébreu et le livre comporte 18 chapitres et c'est pas tout à fait par hasard et on l'apprend aussi à la fin. Et la vie est constamment, finalement, la vie est la réponse qu'on peut apporter à l'absence.
Alors cette valeur 18, mais aussi, je dirais, l'ensemble des chiffres qui apparaissent dans le livre font référence évidemment à votre travail mathématique sur les nombres. En même temps, Paula, c'est pas du tout son truc.
Non.
Mais c'est pas du tout son truc. Mais cependant, elle y est assez attachée et oui. Elle comprend qu'il y a une valeur.
Oui,
et donc,
c'est vrai.
Je crois que
oui.
C'est ça qui est intéressant, c'est que au fond, on retrouve la Kabbale, on retrouve beaucoup d'éléments de la tradition juive qui donnent non seulement une valeur aux chiffres, mais d'une certaine façon font des chiffres quelque chose comme un symbole. Qui est transmis.
Oui, c'est vrai que pour la Kabbale, la plus grande réalisation de l'esprit humain, ce sont les lettres. Les lettres, les mots, la signification. Alors, et évidemment, les lettres, ça veut dire qu'on peut écrire et donc on peut rappeler à tout moment ce qui est écrit. Mais la Kabbale donne aussi une valeur numérique aux lettres et donc une valeur numérique aux mots. Et avec les valeurs numériques des mots, la Kabbale effectue des opérations, et ces opérations sont ensuite réinterprétées en termes de mots. Hein. Par exemple, le serpent et le messie ont la même valeur numérique. Évidemment, ça fait réfléchir quels sont les rapports, quels sont les antagonismes, etc. Donc pour Stein, il y a une recherche mystique du nombre. Alors que pour Paula, c'est une fascination pour le symbolisme des nombres. Mais dans les deux cas, on retrouve cette importance du nombre par rapport au sens. Le nombre dans la Kabbale n'est important que dans la mesure où il permet de réinterpréter les lettres et les mots.
D'une certaine façon, Paula, elle court de nombre en nombre, et on a l'impression que lorsqu'elle dit les nombres m'ont toujours fasciné, surtout pour la symbolique, pour la philosophie,
oui.
Ça signifie que ça la fascine, mais qu'au fond, sans comprendre forcément en quoi il renvoie aux lettres, elle comprend qu'il y a quelque chose qui est caché.
Exactement.
Et,
oui.
et c'est ça qui est intéressant.
Oui,
c'est que
oui.
donc il y a un mystère et qu'au fond, il faudrait travailler pour explorer ce mystère.
Voilà. Et on peut dire qu'elle le pratique sans le travailler. Mais pour elle, la fascination des nombres, elle compte les choses, elle compte les parapluies, elle compte les petits pois dans son assiette. Je dirais, pour elle, les nombres exercent une réelle fascination.
Sans c'est le cas pour vous.
Moi, je suis mathématicien, donc je travaille sur l'idée du nombre. Donc, je compte
vous
pas.
Vous n'êtes plus fasciné par les nombres.
Je suis, disons que je considère qu'un mathématicien, c'est plutôt un philosophe du nombre. Je travaille sur l'idée fondamentale que je veux dire des nombres et sur les structures, les rapports entre l'addition et la multiplication, par exemple. C'est exactement ce que fait la Kabbale, bon, avec des moyens différents.
Alors les nombres vont accompagner Paula jusqu'au dernier chapitre où son fidèle ami Goy et Gay va s'endormir sur le que sais-je qu'elle lui avait prêté. L'auteur écrivant avec humour, Antoine dormait encore, bras ouverts en croix, au bout de ses doigts, le petit livre sur la Kabbale qui ne le quittait plus, ouvert à la page de la symbolique de 7, effacement, mort, rien, implication, retour, renaissance, tout. Alors le 7, évidemment, c'est
le 7, c'est la connaissance.
La connaissance,
Oui, c'est vrai que le 7 est un nombre tout à fait magique dans énormément de cultures différentes. Et c'est vrai que son ami Antoine, finalement, est amené à partager cette fascination de Paula pour les nombres.
Alors il y a autre chose qui est que le 7, que la connaissance, il y a aussi la lumière. La lumière est absolument fondamentale,
oui, tout
parce
à fait.
Que la lumière, c'est le symbole de la connaissance.
Exactement.
Et qui s'avère dans la Kabbale la plus haute métaphore de l'infini et qui traverse tout le roman. Alors j'aimerais que vous me disiez comment parfois cette lumière, vous la faites jouer à cache-cache avec les héros, vous la faites mettre à distance certains de vos personnages, et comment à d'autres moments... cette lumière, petit à petit, s'estompe. On a l'impression qu'elle est très loin, très...
Oui.
Vous voyez ?
Oui, c'est vrai que quand la première rencontre de Paula avec Pavel Stein, c'est dans une sorte de halo, dans un cinéma. Il fume son cigare. Il est dans la fumée. Alors, c'est d'ailleurs à cause de ça qu'elle lui lance cette phrase épouvantable en disant « Excusez-moi, mais moi... » Je ne supporte plus la fumée. Alors, compte tenu du travail de Stein, c'est une insulte terrible. Et puis, quand il se quitte au Tibet, il lui écrit « Tu as disparu dans la brume ». Donc, la lumière est en permanence, enfin, pas en permanence, elle est quelquefois, elle est vive, et quelquefois, elle est tamisée, comme notre rapport avec la connaissance, finalement, puisque, je dirais, parfois, on accède à la connaissance, et parfois, la connaissance est rétive, elle s'éloigne et il faut faire un effort pour courir après.
Quand Paula lit les textes de Pavel Stein, vous dites que ce sont des cailloux blancs tombés des étoiles.
Oui.
J'aimerais que vous m'expliquiez cette idée-là. Parce qu'au fond, elle est très très loin, c'est pour ça.
Oui.
Et donc, ces cailloux blancs, pourquoi vous l'identifiez aux cailloux blancs ?
Alors, c'est une référence au petit Poucet, hein, tout simplement, les cailloux blancs, c'est-à-dire que ce sont ces cailloux qui vont lui permettre de faire son chemin, c'est-à-dire ce sont ces cailloux qui vont la guider et l'orienter. Comment dire, il était important pour moi, dans ce livre, Il y a trois thèmes qui sont finalement essentiels, qui parcourent le livre. Il y a le thème du commentaire, le thème de l'absence et le thème de la révolte. Et le commentaire, il est en particulier... Alors, bon, Stein est en permanence en train de commenter, y compris l'absence, puisqu'il il a écrit un livre dans lequel les commentaires commentent un texte qui n'existe pas, enfin, qui est vide. Et Paula, elle, quand elle reçoit les lettres de Stein, après coup, eh bien, elle les commente. Voilà. Donc c'est ce commentaire qui symbolise pour elle, qui concrétise pour elle ces cailloux blancs qui vont lui permettre d'avancer.
Gérald, bravo pour l'intelligence de la, au fond de l'ensemble du système que vous avez conçu entre ces deux personnages, et en même temps, je dirais bravo pour l'écriture. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à trouver un rythme de l'écriture qui correspond petit à petit aux découvertes que fait le lecteur. Je vais prendre un petit exemple. Nous avions rendez-vous. J'ai levé la tête. Jamais je n'ai autant désiré une femme que lorsque je t'ai vu apparaître au bout de l'allée. On est au Tibet, hein, au moment où elle, où elle arrive. Tu portais un tailleur rouge sans chemisier, avec des chaussures plates de la même couleur. De nouveau les habits. Alors que tu approchais, à contre-jour, dans la lumière émeraude de cette fin d'après-midi, on a parlé de la lumière et du jeu sur la lumière, donc j'ai pensé que si nous nous étions trouvés plus tôt, j'aurais accepté de toi ce que j'ai refusé aux autres, un enfant. Et comme ça, avec très très peu de mots, vous arrivez sur le dernier thème du livre, qui est la transmission.
Qui est la transmission,
alors,
tout à fait.
Expliquez-moi pourquoi cette transmission est absolument centrale et comment votre écriture tourne autour de ce thème de la transmission. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous avez changé votre écriture pour parler de transmission, un peu comme si vous l'aviez petit à petit haché pour dire, voilà, la transmission c'est compliqué et
bien
c'est des petits bouts qui vont venir.
Oui, c'est vrai que le thème de la transmission a été un souci constant dans l'écriture de ce livre. Et c'est vrai que la transmission est une... Comme vous dites, c'est quelque chose de compliqué. Et donc, il était nécessaire de l'amener petit à petit. Et là, entre Pavel et Paula, finalement, je veux dire, donc, bon, le livre commence à un moment où, bon, pour des raisons évidentes, elle ne peut pas être enceinte. Et ensuite, il y a une sorte de communication implicite, non verbale entre eux. Donc lui pense à avoir un enfant avec elle, mais il ne le dit pas. Et elle y pense aussi, mais elle s'en déprend et elle plaisante en disant oh ben maintenant je suis pas prête de pouponner, alors qu'en fait c'est ce qu'elle souhaiterait. Donc la transmission, elle se fait comme ça en avançant de biais, et le rapport entre la transmission et le commentaire, je crois qu'il est essentiel.
Alors justement, ce livre est un peu une reprise d'un livre que vous avez écrit il y a très longtemps, qui s'appelait « Retendez-vous au bord du nombre ». Pourquoi est-ce que vous avez, non seulement parce que la thématique est la même, mais d'une certaine façon, on a l'impression que là c'est beaucoup plus abouti, beaucoup plus approfondi. Et pourquoi est-ce que vous avez éprouvé le besoin de reprendre cette thématique? Vous aviez l'impression que ce n'était pas entièrement réussi?
Ce livre m'avait laissé quelques frustrations, effectivement. Et j'avais... Il y avait des thèmes qui n'étaient pas... qui était seulement esquissé, que j'avais envie de développer plus avant, notamment sur le thème de l'absence, par exemple le rapport avec la mère. Bon, la mère était, il y avait une phrase dans Rendez-vous au bord du nombre. Le personnage de la mère est présent d'un bout à l'autre du livre. Sur la question du commentaire, qui fait vraiment partie de l'identité juive, il m'est apparu à un moment donné qu'il était essentiel que Paula puisse commenter les lettres de Stein, ce qui n'était pas dans le livre. Et puis il y a aussi un côté un petit peu polar qui est développé dans l'affaire Pavel Stein, d'où le titre d'ailleurs, qui était également absent dans Rendez-vous.
Merci Gérald Tenenbaum. Alors je rappelle que ce livre s'appelle « L'affaire Pavelstein ». Il est publié aux éditions Cohen et Cohen. C'est un très beau livre. Vraiment, j'incite tous nos auditeurs à lire ce livre parce qu'au fond, toute la thématique juive est dans ce livre. Toutes les thématiques qui nous sont chères. Bon, merci beaucoup. Merci. La semaine prochaine,
merci à vous.
On parlera encore de mémoire puisque je recevrai Philippe Ménard.
Merci.